Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je vous en remercie. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à Conflits depuis notre site internet. Vous pouvez également retrouver Conflits en kiosque. Ce mois-ci, notre dossier est consacré à la géopolitique de l'alimentation et puis diffusez nos articles, nos émissions à vos amis afin de les faire connaître au plus grand nombre. Cette semaine, nous allons partir deux siècles en arrière, dans les années 1812-1815, pour évoquer un conflit qui est aujourd'hui oublié, surtout en France, et pourtant un conflit extrêmement important, puisqu'il a opposé les États-Unis d'Amérique à l'ancienne puissance coloniale, à savoir l'Angleterre. Alors on connaît bien évidemment la première guerre d'indépendance, dans laquelle d'ailleurs la France est engagée et a contribué à l'indépendance des colonies américaines, beaucoup moins la seconde guerre, qu'on appelle la seconde guerre d'indépendance, ce conflit qui a vu s'opposer les deux rives de l'Atlantique, qui s'est soldé par une victoire ou bien une non-défaite des États-Unis, même si Washington, la capitale, a été prise et si la Maison-Blanche a été incendiée. C'est dire que ce conflit est important pour l'Angleterre et pour les États-Unis, mais pour l'Europe aussi. En 1812, nous sommes dans les guerres napoléoniennes. La France regarde ailleurs, malgré tout, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique est extrêmement important. Nous allons donc évoquer cette autre guerre d'indépendance américaine. C'est le titre d'un ouvrage que vient de publier Sylvain Roussillon aux éditions Bernard Giovannangeli, l'autre guerre d'indépendance américaine, 1812, le conflit méconnu. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet ouvrage sur le site internet de Conflits. Sylvain Roussillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié plusieurs ouvrages d'histoire qui ont un rapport avec l'histoire militaire, notamment vous avez publié un ouvrage sur les brigades internationales de Franco, publié chez Via Romana en 2012. Et puis, bientôt, vous publierez également un ouvrage sur la colonisation allemande, au sens large, des débuts jusqu'à la fin. Mais c'est d'abord de cet ouvrage dont nous allons parler, et plus exactement de ce conflit 1812-1815, qui a donc duré 3 ans. Première question pour commencer, pourquoi est-ce que Anglais et Américains se refont la guerre en 1812, à savoir donc une petite quarantaine d'années après l'indépendance? Pourquoi une nouvelle guerre? Pourquoi est-ce que les Anglais retraversent l'Atlantique? Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient réellement reconquérir les colonies perdues, ou bien y avait-il un autre projet derrière?
Alors, on peut dire que, effectivement, les deux conflits sont très liés, malgré les 40 ans qui les séparent. Les Britanniques ne retraversent pas exactement l'Atlantique, puisque je rappelle qu'ils sont quand même présents sur le continent nord-américain par l'intermédiaire de leur colonie canadienne. Il y a donc une frontière terrestre entre l'Empire colonial britannique et les États-Unis naissants. Alors, il se trouve que, en fait, du côté britannique, on n'a jamais complètement, réellement accepté la victoire et l'indépendance des États-Unis, et que, d'une certaine manière, effectivement, ce second conflit a des allures de revanche. Alors, quand je dis que du côté britannique, on n'a jamais complètement accepté cette indépendance américaine, on le voit assez rapidement lorsque la France est occupée sur d'autres théâtres militaires, c'est-à-dire à partir de la Révolution française. Les Britanniques vont prendre la mauvaise habitude de plus en plus de pénétrer dans les eaux territoriales américaines et de se livrer à une espèce de piraterie légale en arrêtant les navires battant pavillon américain sous des prétextes divers et variés, sous le prétexte que les Américains livreraient des armes ou livreraient des marchandises à la France, sous le prétexte que la marine américaine hébergerait ou serait un lieu d'accueil pour un certain nombre de déserteurs de la Royal Navy. Enfin, voilà, les prétextes sont variés, sont tous de très mauvaise foi, et les Britanniques en profitent très souvent pour saisir les cargaisons et puis renflouer les équipages de la Royal Navy avec des citoyens américains contre leur gré. Et on estime qu'au début de cette guerre de 1812, il y a près de pas moins de 10 000 citoyens américains qui servent de manière contrainte et forcée sur les navires britanniques. Donc en fait, les Britanniques n'ont jamais complètement admis leur défaite et les accords de paix de Paris de 1783 qui mettent fin à la guerre et reconnaissent l'indépendance des États-Unis. Donc il y a déjà ce premier facteur. Et puis il y a un facteur du côté américain. C'est-à-dire que la vie politique américaine se structure très rapidement. Alors pour rappel, hein, les premiers soulèvements américains contre les Britanniques, c'est 1774. L'indépendance est formellement proclamée en 1776. En 1783, c'est le traité de Paris et la paix entre les États-Unis naissants et les Britanniques. La Constitution américaine est rédigée en 1787 et le premier président de la République américaine, George Washington, est élu en 1789. En 1790, on voit apparaître le premier parti politique américain, le Parti fédéraliste, et en 1792, 2 ans après, son opposant, le Parti démocrate-républicain. Le Parti fédéraliste, c'est un parti conservateur qui est encore très tourné vers l'Europe et qui a presque je dirais, c'est le parti qui a porté l'indépendance, qui a porté la guerre d'indépendance, mais qui en même temps n'entend pas rompre complètement avec l'Angleterre. À tel point qu'il y a même un certain nombre de voix qui se font entendre au sein de ce parti fédéraliste en disant, bah, finalement, on pourrait, sous forme de traité, retravailler des relations nouvelles, différentes, autres, avec les Britanniques. Et à l'inverse, le parti démocrate-républicain s'affiche comme un parti résolument de rupture, qui lui souhaite assumer pleinement les résultats de la guerre d'indépendance, en disant non, il faut tourner le dos au Royaume-Uni et aux Britanniques. Et certains leaders un peu extrémistes du Parti démocrate-républicain vont même plus loin en disant tournons le dos à l'Europe. Et en réalité, ce conflit de 1812 naît d'abord du côté américain d'un conflit politique entre fédéralistes et entre démocrates républicains qui vont se rentrer en lutte électorale pour la conquête du pouvoir parce qu'ils ont deux visions extrêmement antagonistes de l'avenir des États-Unis naissants, notamment par rapport aux relations que les États-Unis naissants doivent entretenir ou non avec l'ancienne puissance coloniale et même avec l'Europe. Tout ça aboutit en 1800 à la victoire électorale du Parti républicain-démocrate sur les fédéralistes avec Thomas Jefferson. Thomas Jefferson qui va faire 2 mandats jusqu'en 1808 et qui est bien conscient de la faiblesse militaire des États-Unis à l'époque. Il faut savoir que les États-Unis ont à cette époque une vision très négative de tout ce qui est force armée, notamment force armée permanente. Et les États-Unis préfèrent assurer leur défense en maintenant et en créant des milices locales. C'est d'ailleurs contenu dans ce fameux second amendement à la Constitution américaine qui, nous, vu de France, nous semble toujours un petit peu étrange, bizarre, exotique. Vous savez, l'amendement qui a trait au port d'armes, pour faire simple. En France, on a un peu du mal à saisir l'importance de cet amendement pour les Américains. Pour les Américains, c'est un amendement fondateur, c'est-à-dire pour défendre une nation libre doit disposer de citoyens armés et organisés en milice. Voilà, pour faire simple, c'est le second amendement. Et ce second amendement, qui valorise le rôle des milices, forcément, va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler une armée de métier. Et les Américains, dans ces premiers temps de leur existence, sont très réticents à l'égard d'une armée de métier, à tel point d'ailleurs que en 1783, lorsque la paix de Paris est signée, leur armée régulière tombe à 87 soldats uniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collectionneur de soldats de plomb pourrait faire tenir l'équivalent de l'armée américaine sur son étagère. Je reviens sur Thomas Jefferson, donc ce premier président fédéraliste, qui lui a bien conscience qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, en venir aux armes contre les Britanniques qui se livrent à des exactions maritimes de plus en plus fréquentes, allant même jusqu'en 1807 à pénétrer à l'intérieur de la Chesapeake, qui est une rivière côtière américaine, et à s'affronter militairement avec un navire de la flotte américaine contre toutes les lois de la guerre, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, il n'y a rien eu, mais il se trouve que la Royal Navy a tendance à se considérer un petit peu dans les eaux américaines comme dans ses propres eaux territoriales. Mais les fédéralistes, pardon.
Oui, ce que vous expliquez là est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, enfin, on connaît les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Ce que l'on voit là, c'est les débuts des États-Unis en tant que nation et notamment sur la scène internationale. Et on voit notamment la question maritime que vous avez évoquée, comme la question du positionnement par rapport à l'Europe, sont des sujets structurants pour la politique intérieure des États-Unis et pour la politique extérieure. On a vu que on sait que dans l'histoire, ensuite, la question de l'accès à l'Atlantique a joué un rôle essentiel dans l'entrée en guerre de la Première puis Deuxième Guerre mondiale, et que le rapport aussi au monde, de l'isolationnisme ou au contraire de l'interventionnisme, est fondamental dans la politique américaine de début 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, finalement, ce qu'on a montré, c'est que dans cette guerre de 1812, côté américain, est en train de se mettre en place le puzzle structurant de toute l'histoire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui.
Oui, c'est exactement ça. C'est là que se structure, à mon sens, vraiment la nation américaine, telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant ce conflit de 1812, les États-Unis constituent encore une nation qui se cherche. Qui n'a pas encore pris conscience d'elle-même. Pour beaucoup d'Américains et ceux qui sont représentés par le Parti fédéraliste, finalement, les États-Unis restent 13 colonies qui se sont émancipées. Mais il n'y a pas encore d'état d'esprit national. Cet état d'esprit national, patriotique, qui est en gestation, mais qui n'est pas encore affirmé, va réellement prendre son essor, son envol, à l'occasion de la guerre de 1812.
Alors, par rapport à cette guerre, comment réagissent les différentes populations qui composent les États-Unis? Vous avez expliqué qu'il y avait une structuration politique entre fédéralistes et démocrates républicains à l'égard de l'Angleterre. Est-ce que les fédéralistes sont favorables à la guerre ou est-ce qu'au contraire, ils vont chercher à modérer, voire à se rallier aux Anglais? Et est-ce que les Anglais utilisent également les populations indiennes, dont ils sont alliés avec certains, pour faire une sorte d'alliance de revers contre les États-Unis, qui à l'époque sont les 13 colonies, donc essentiellement la côte est et non pas l'ensemble du territoire tel que l'on a aujourd'hui?
Oui, alors vous avez raison de le rappeler. Les États-Unis, à l'époque, constituent, d'un point de vue géographique, un ensemble territorial qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. En fait, les États-Unis, alors, ont changé de président entre-temps, même s'ils ont conservé un président démocrate-républicain. C'est le président James Madison qui est au pouvoir depuis 1808. Les démocrates républicains souhaitent un petit peu forcer la main de la nation américaine parce qu'ils se sentent prêts militairement, parce que en 1812 L'Angleterre est quand même très très occupée sur le continent américain et ils se disent que c'est le moment ou jamais de tenter leur chance avec comme ambition, ni plus ni moins, la conquête du Canada. Hein, c'est l'objectif des États-Unis à l'époque, c'est-à-dire de chasser définitivement les Britanniques de toute présence sur le continent nord-américain. Donc, la guerre est déclenchée officiellement le 18 juin 1812, sachant qu'il y a des élections présidentielles qui vont se dérouler à l'automne 1812. Et les démocrates républicains espèrent des victoires extrêmement rapides pour ranger la nation derrière eux. Or, dès le début de la guerre, ça se passe plutôt très mal pour les Américains qui piétinent, qui pataugent, qui subissent revers sur revers. Et ces élections de 1812 vont être extrêmement serrées, à tel point que les démocrates républicains ne doivent leur victoire qu'au fait que du côté des fédéralistes, il y a eu deux candidats rivaux. En réalité, les démocrates républicains gagnent cette élection tout en étant minoritaires, très légèrement minoritaires, mais minoritaires quand même. Et d'un point de vue de l'attitude des populations américaines à l'époque, ben, on voit très bien une cassure qui s'opère entre le Nord, qui est notamment l'État de New York, qui est collé à la frontière canadienne et donc qui va être le premier impacté par le conflit avec les Britanniques et qui vote très majoritairement pour les fédéralistes, c'est-à-dire contre la guerre. Et puis les États un peu plus au sud ou un peu plus à l'ouest, c'est-à-dire ceux qui commencent déjà à incarner le rêve de l'ouest américain, de la conquête de l'espace américain, qui, eux, votent beaucoup plus massivement en faveur des démocrates républicains. Donc là, on a vraiment une cassure. 50% des Américains sont favorables à la guerre, 50% sont hostiles. Et il est de bon ton à l'époque, d'ailleurs, de qualifier cette guerre de la guerre de Monsieur Madison. C'est-à-dire pour bien préciser que ça n'est pas la guerre de tous les Américains. Alors, les choses évolueront tout au long du conflit, mais sur le moment, cette guerre est plutôt impopulaire. Elle est d'autant plus impopulaire qu'on oublie souvent qu'une bonne partie des Américains, au moment de la guerre d'indépendance, hein, donc à partir de 1774 jusqu'en 1783, n'ont pas été favorables à la guerre d'indépendance. On estime aujourd'hui que seulement entre 40 et 45% des Américains étaient favorables à l'indépendance, contre 15 à 25% qui étaient restés loyalistes à la couronne britannique. Un certain nombre d'entre eux ont émigré au Canada, mais pas tous, et ils ont constitué un des embryons du Parti fédéraliste. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est loin d'être gagnée pour les partisans de la guerre aux États-Unis, avec une moitié de l'opinion qui rechigne à cette guerre. Par ailleurs, dès 1808, pour revenir sur votre question par rapport aux populations indiennes, dès 1808, s'est constitué dans l'Ouest américain, à proximité de la frontière canadienne, un véritable État indien, une confédération indienne, sous la direction du chef Tecumseh, un chef Shawnee, qui a rallié auprès de lui une vingtaine de tribus, et dont l'objectif est de constituer une république indienne, une république confédérée indienne, à l'image un petit peu d'un État moderne, de ce qu'était un État moderne à l'époque. Bien évidemment, les États-Unis naissants sont très hostiles à la constitution de cet État indien qui bloquerait et qui va complètement leur expansion dans l'Ouest américain, alors que les Britanniques y voient des alliés potentiels et fournissent des armes et du matériel aux chefs Tecumseh pour pour qu'ils puissent constituer une troupe régulière pour l'aider à constituer sa confédération indienne. Lorsque la guerre éclate en 1812, les États-Unis sont déjà en situation de guerre avec les Indiens, mais l'éclatement formel de la guerre entre Britanniques et Américains va faire basculer très officiellement la Confédération indienne du côté des Britanniques, et le chef de Tecumseh se verra d'ailleurs remettre un brevet de major général, c'est-à-dire que historiquement c'est le premier natif indien à obtenir un grade de général dans une armée occidentale.
Alors il y a deux grandes zones pour les combats, il y a autour des Grands Lacs et puis également les batailles navales dans l'Atlantique. On va commencer par les Grands Lacs, c'est une zone importante des combats. Vous l'avez dit, les Anglais sont implantés au Canada, donc si on veut mener une opération terrestre, on passe par les Grands Lacs parce qu'il y a une frontière commune. Et est-ce que les Américains ont renouvelé leur pratique de combat par rapport à la première guerre d'indépendance, notamment pour mener des batailles terrestres qui soient des opérations réussies?
Alors, assez peu. En fait, les Américains pêchent au début du conflit par excès de confiance. Ils ont considéré. Ils y étaient très opposés, mais les effectifs en 1812 font apparaître une armée de métis qui est montée à 7000 hommes, ce qui, pour l'époque et pour le lieu, est considérable. En phase 2, il y a à peu près 5000 combattants réguliers canadiens-britanniques, ce qui peut laisser croire aux Américains qu'ils ont un avantage certain en termes numériques, en tous les cas. Les Américains ont négligé malgré tout un certain nombre de facteurs. D'une part, le ralliement des tribus indiennes aux Britanniques et aux Canadiens. D'autre part, le fait que les Canadiens et les Britanniques ont levé, disposent de 14 000 hommes, de 14 000 miliciens sur place, pour la plupart issus de ces loyalistes américains qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire qui sont pas de simples miliciens qui cherchent à défendre leur ferme ou leur village, mais ils sont issus d'immigrés américains qui eux souhaitent clairement en découdre avec ils n'ont pas oublié le conflit qui n'est pas plus vieux que ça et le conflit de l'indépendance et on a affaire à des miliciens qui sont extrêmement belliqueux de ce côté de la frontière canadienne. Et donc, les Américains vont se lancer un petit peu la fleur au fusil dans cette aventure militaire, pensant à une guerre courte et joyeuse, avec en plus une ultime erreur de leur part, qui est de nommer au poste de commandement supérieur, pour, dans la plupart des cas, des généraux ou des officiers issus du Parti démocrate-républicain, c'est-à-dire qu'on privilégie une appartenance partisane à des compétences militaires. Et très rapidement, le résultat se fait sentir. L'année 1812, qui dans l'esprit de l'état-major et de la présidence américaine, devait suffire à mettre au pas les anglo-canadiens, s'achève par... est une année désastreuse sur le plan militaire, puisque Détroit tombe aux mains des Britanniques, Chicago tombe aux mains des Britanniques, et à la fin de l'année 1812, les Britanniques contrôlent l'ensemble des flottes fluviales, des flottes lacustres qu'on trouve sur les Grands Lacs, et la seule offensive américaine qui se soit réellement déroulée dans des conditions pas trop catastrophiques s'achève quand même par une retraite de l'armée américaine. C'est-à-dire que à la fin de l'année 1812, les Britanniques sont solidement installés sur les Grands Lacs et sur une partie du territoire américain. Donc là, 1812 marque est une douche froide, est une énorme désillusion pour les politiques et pour les militaires américains, puisqu'ils sont complètement aux antipodes de leurs espérances militaires. L'affaire va être sauvée par la marine américaine, qu'on n'attendait pas, qui va réaliser un certain nombre d'exploits pendant toute la guerre. Alors, quand je dis qu'on ne l'attendait pas à ce rendez-vous, c'est tout simplement parce que la marine américaine, à l'époque, est extrêmement restreinte. En 1812, on ne compte que 22 bâtiments de guerre pour toute la marine américaine. Au même moment, les Britanniques ont, dans cette zone de l'Atlantique Nord, 108 navires de guerre, 108 contre 22. Si on ajoute à ça l'ensemble de la flotte de guerre britannique qui sillonne l'ensemble du globe, on est à 800 navires de guerre côté britannique contre 22 américains. C'est-à-dire que la disproportion des forces est totale. Et les Américains vont avoir recours, vont utiliser le recours qui est celui de toutes les nations maritimement faibles. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser massivement les corsaires, c'est-à-dire avoir recours à la guerre de course, qui d'ailleurs n'est pas une nouveauté dans l'histoire, puisque ce sera aussi le recours des Français après la bataille de Trafalgar, qui voit la quasi-destruction de la flotte régulière de guerre française, et la France va à nouveau relancer la guerre de course et les corsaires. Et les Américains font exactement la même chose. Voyant que le rapport des forces est tellement disproportionné entre marine de guerre régulière britannique et américaine, ils vont encourager finalement l'initiative privée, puisque la guerre de course, c'est ni plus ni moins qu'une initiative privée. Hein. On accorde à des armateurs privés le droit, un État accorde à des armateurs privés le droit d'armer des navires de guerre. Et en échange d'une part du butin pris à l'ennemi. Ça va s'avérer être un énorme succès, puisque pas moins de 517 navires corsaires vont ainsi être armés par les Américains. Et ce sont eux, en grande partie, qui vont fragiliser la Royal Navy et le commerce maritime britannique pendant ces 2 ans et demi de guerre. Au total, les Britanniques perdront pas moins de 1600 navires de commerce pendant ces 2 ans et demi de guerre, dont 1300 qui seront pris directement par des corsaires américains. C'est dire l'impact économique énorme que joueront ces corsaires américains et cette flotte de guerre américaine, qui pourra même se payer le luxe à la fin du conflit d'aller porter la guerre jusqu'en mer d'Irlande, c'est-à-dire vraiment dans les eaux territoriales britanniques. Donc là, on a finalement une vision de la guerre qui est un petit peu renversée, c'est-à-dire que les Américains vont être très présents sur un terrain où on ne les attendait pas, à savoir la guerre navale. Et dans un premier temps, en tout cas sur cette première année 1812, vont être très curieusement faibles face à un adversaire qui, normalement, numériquement, leur était inférieur.
Alors, au même moment, les Anglais sont en guerre en Europe contre Napoléon. Donc, on peut supposer aussi que ce deuxième front, où une partie importante de la flotte anglaise et même de l'armée de terre anglaise est mobilisée aux États-Unis, les empêche de mener la guerre contre Napoléon, et donc ça a pu profiter de façon indirecte des affaires de l'empereur en France.
Alors à l'inverse, je pense que c'est plutôt l'inverse, que ça a profité aux Américains plus qu'aux Français. 1812, c'est l'année où Napoléon s'engage dans la campagne de Russie. Et en fait, très honnêtement, je ne pense pas que la présence de quelques navires britanniques de plus ou de moins, ou quelques milliers de soldats britanniques plus ou de moins dans la péninsule espagnole, par exemple, aurait changé fondamentalement les données du problème napoléonien. Mais par contre, ça change tout pour les Américains, parce que, évidemment, l'effort de guerre principal, que fournissent les Britanniques, il est fourni en Europe et il n'est pas du tout fourni sur le continent nord-américain. Et on verra, après la première abdication de Napoléon, c'est-à-dire en 1814, on verra d'ailleurs les Britanniques renforcer considérablement leur position sur le continent nord-américain. Et c'est là que se place cet épisode que vous évoquiez pendant votre introduction, de la prise de la capitale américaine, de la prise de Washington et de l'incendie de la Maison Blanche et des bâtiments publics à Washington. C'est-à-dire que à ce moment-là, effectivement, les Britanniques peuvent se permettre de retourner l'ensemble de leurs forces, ou la majeure partie, sur ce théâtre des opérations nord-américain.
Alors, comment se fait-il que les Anglais aient pris la capitale et pris même la Maison Blanche et que pour autant ils n'aient pas gagné la guerre et qu'ils n'aient pas réussi à prendre les États-Unis? Normalement, dans l'histoire d'un pays, lorsque la capitale est prise, lorsque le gouvernement est en fuite ou lorsqu'il a été capturé, ça sonne un petit peu la mort de celui-ci. Et là, ce n'est pas le cas. Comment ont fait les Américains pour se redresser?
Alors, vous avez entièrement raison, c'est un cas pratiquement unique alors pas tout à fait, mais presque de prise de capitale sans pour autant que ça sonne la fin de la guerre. Alors, d'une part, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, chaque État, les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a certes une capitale fédérale, mais que chacun des États, autour de son gouverneur, entretient des forces armées, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même chaque État a la capacité finalement d'agir militairement, économique et économiquement indépendamment de la capitale fédérale. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la prise de Washington. La prise de Washington qui intervient le 24 août, le 24 août 1813, le 24 août 1814, la prise de Washington va agir comme un véritable coup de fouet sur l'opinion publique américaine. Et c'est particulièrement vrai dans le nord du pays, qui était resté fondamentalement fédéraliste, où on voit bon nombre d'hommes politiques fédéralistes, de journaux fédéralistes, d'électeurs fédéralistes qui sont frappés, touchés, meurtris par la prise de Washington et surtout par l'incendie des bâtiments publics. C'est-à-dire que les Britanniques ne se contentent pas de prendre la ville. Ils incendient le Congrès, ils incendient la Maison Blanche, ils incendient la bibliothèque du Congrès et ils incendient un certain nombre de ministères. Et les Américains, quelle que soit leur opinion politique, le vivent comme une humiliation ultime. Et en fait, la prise de Washington agit comme un catalyseur. À partir de la prise et de l'incendie des bâtiments publics de Washington, on peut considérer que plus de 90% de la population américaine bascule dans le camp de la guerre, de manière définitive, irrémédiable, parce que l'humiliation est trop forte et que ça soude le peuple américain autour de cette déconvenue, de cette humiliation. Et on le voit très bien dans les jours qui suivent l'incendie de Washington. Puisque les troupes britanniques qui ont pris la capitale américaine, qui ont incendié les bâtiments publics, marchent ensuite sur Baltimore. Baltimore est à l'époque pratiquement l'un des plus grands ports avec New York des États-Unis. Baltimore, c'est une ville de 50 000 habitants, ce qui est considérable à l'époque pour le continent nord-américain. Et la prise de Baltimore aurait, là pour le coup, aurait probablement mis fin à la guerre parce que c'était un des principaux centres commerciaux portuaires américains. Et là, ça aurait très vraisemblablement étranglé économiquement les États-Unis. Or, Baltimore, les défenseurs de Baltimore, qui qui luttent à un contre deux contre les Britanniques, sont galvanisés par l'incendie des bâtiments publics de Washington, et ils vont lutter pied à pied contre les Britanniques. C'est à l'occasion du siège et de la bataille de Baltimore que sera composé, d'ailleurs, ce qui va devenir l'hymne des États-Unis, le Star Spangler Banner. Ça montre bien que Washington plus Baltimore sont les véritables catalyseurs du patriotisme américain naissant. Et les Britanniques sont obligés de se retirer du siège de Baltimore devant la défense acharnée des Américains. Ils craignent qui plus est que le reste des États-Unis mobilise ses milices et les envoie contre eux. Bref, le corps expéditionnaire britannique qui a débarqué, finalement, craint de se retrouver prisonnier de sa conquête et préfère réembarquer en septembre 1814 en abandonnant le siège de Baltimore.
Finalement, ce que vous expliquez là, c'est un phénomène assez classique qu'on voit dans les pays où une guerre contribue, face à un ennemi extérieur, à créer une unité nationale et oblige la population à se positionner par rapport à son pays. Donc ça crée un catalyseur de création d'unité nationale.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ce que voulait réaliser le président Madison en 1812 en déclarant la guerre, se réalise finalement 2 ans après, grâce ou à cause de l'incendie des bâtiments publics de Washington. En fait, c'est les Britanniques qui, par leur conduite à Washington, parviennent à réaliser cette espèce de fusion américaine qu'avait souhaité le président Madison en 1812.
Alors, autre élément aussi par rapport à cette guerre, on arrive au terme de notre émission, donc nous allons voir comment celle-ci s'est terminée, les accords qui mettent fin à la guerre en 1815, et finalement, on revient à la situation telle qu'on était avant la guerre, donc les Britanniques n'ont pas gagné, les Américains non plus n'ont pas gagné, mais n'ont pas complètement perdu, mais étant le pays attaqué, la situation est meilleure pour eux que pour les Anglais.
Alors, effectivement, la paix est signée en Europe, en Belgique, à Gand, le 2 décembre 1814. Alors, il y aura encore des combats, et même des combats importants ensuite, le temps que la nouvelle soit connue, hein, puisque à l'époque, il fallait compter à peu près 6 semaines pour que les nouvelles traversent l'Atlantique. Et donc, il y aura notamment encore une très importante bataille à la Nouvelle-Orléans, sur un front que les Britanniques ont tenté d'ouvrir au sud, qui soldera d'ailleurs par une défaite assez écrasante des Britanniques. Les accords de Gand, effectivement, concluent un statu quo antebellum, c'est-à-dire on revient aux positions qu'on occupait précédemment, avec quelques réajustements de frontières au nord, mais des réajustements de frontières qui probablement se seraient réglés d'une manière ou d'une autre par des traités ensuite, mais il n'y a pas fondamentalement de modifications sensibles. Mais vous avez raison de le souligner, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, mais du côté américain, on en tire quand même une énorme fierté, c'est-à-dire la fierté d'avoir tenu tête pendant 2 ans et demi à la première puissance économique, navale, militaire de l'époque, d'avoir subi des défaites, mais d'avoir remporté des victoires, et d'avoir tenu tête à cet arrogant Albion. Et puis, il se trouve aussi que, très paradoxalement, ce conflit n'est pas du tout comme beaucoup d'historiens l'ont cru pendant longtemps, n'est pas un gouffre financier pour les États-Unis, au contraire. L'économie américaine était très tournée vers l'Europe. Le blocus britannique va obliger l'économie américaine à développer sa propre production. C'est-à-dire qu'il y a un coup de fouet qui est donné à l'industrie et à la manufacture américaine à cette occasion. Et même si, en termes d'exportation, les Américains vont perdre à peu près 7 millions de dollars pendant cette guerre, les prises réalisées par les corsaires sont de l'ordre de 9 millions et demi. C'est-à-dire qu'en fait, le solde est positif de 2,5 millions de dollars en faveur des États-Unis, avec en plus, je le répète, le fait qu'ils sont obligés de cesser une bonne partie de leurs importations de produits manufacturés venant d'Europe, et ce qui contribue à développer leur propre économie manufacturière. Donc, d'un point de vue économique, les États-Unis s'en sortent plutôt très bien. Et puis, dernier point, qui est un point plus diplomatique, et ben effectivement, les États-Unis ont conscience d'être passés à côté d'une sévère défaite et finalement de s'en être très bien sortis. Ça va donner lieu à la théorisation de cette guerre par un dénommé James Monroe, qui est ministre de la guerre du président Madison et qui est à l'origine de la fameuse doctrine Monroe, qui est la doctrine comment dire, détermine la sphère d'influence des Américains aux Amériques, enfin plus exactement des États-Unis en Amérique. C'est-à-dire de dire, nous, Américains, nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe en dehors des États-Unis, mais nous interdisons maintenant aux Européens de venir se mêler de ce qui se passe en Amérique. Cette doctrine Monroe, alors c'est la doctrine Monroe de base, telle qu'elle est théorisée au début des années 1820. Elle va connaître évidemment des évolutions, et à partir de la fin du XIXe siècle, on passera d'une doctrine qui est très américano-américaine à une doctrine plus expansionniste, notamment sous l'influence de Theodore Roosevelt, qui va s'inspirer beaucoup des écrits qui ont été rédigés à l'époque de cette guerre de 1812, pour dire, bon, effectivement, le continent américain est un continent, une sphère d'influence réservée aux États-Unis, mais les États-Unis ne s'interdisent plus, maintenant qu'ils sont devenus une grande puissance, d'intervenir ailleurs. Et quelque part, cette guerre de 1812 jette les prémices de l'impérialisme américain, tel qu'on le connaît toujours aujourd'hui d'une certaine manière. Depuis 1812, on peut dire que en matière de politique, ou en tout cas depuis Theodore Roosevelt, qui s'impose, qui s'inspire de 1812, on peut dire que les États-Unis, en tout cas, ont très très peu varié dans leur approche leur vision de la politique internationale.
Dernière question, Sylvain Roussillon. Qu'en est-il de la mémoire de cette guerre aujourd'hui? Les États-Unis regardent beaucoup vers la première guerre d'indépendance, c'est normal. Et puis après, il y a la guerre civile qu'on appelle en Europe la guerre de sécession. Est-ce que cette guerre de 1812 est présente dans l'histoire américaine? Est-ce que c'est une référence ou est-ce que c'est un conflit oublié chez eux aussi?
Alors, c'est un conflit qui est beaucoup moins oublié qu'il ne l'est en Europe. Il y a eu énormément de commémorations de la guerre de 1812 aux États-Unis, mais aussi au Canada. D'ailleurs, en 2012, le président Obama a reçu à la Maison Blanche David Cameron, le Premier ministre britannique, et lui a fait une petite remarque sur l'incendie de la Maison Blanche 200 ans auparavant. Preuve que voilà, les politiques 200 ans après, les politiques américaines en tout cas, avaient encore bien cet incendie et cette guerre en tête. Voilà, il y a eu un certain nombre. Vous savez, les Américains sont très friands de commémorations historiques, et donc il y a eu pas mal de commémorations, alors qu'ils sont limités géographiquement plutôt dans les secteurs où il y avait eu conflit, hein, c'est-à-dire que, évidemment, on peut penser qu'en Californie, il y a eu assez peu de commémorations de la guerre de 1812, mais il y a eu des commémorations en Louisiane, et puis il y a eu des commémorations beaucoup dans les États du nord-est américain, le Vermont, le Maine, l'État de New York, etc., etc. Donc, ça reste pour les Américains, ce conflit demeure un conflit fondateur.
Merci beaucoup, Sylvain Roussillon, d'avoir évoqué pour conflit cette guerre méconnue. Je rappelle Le titre de votre ouvrage, L'autre guerre d'indépendance américaine, 1812, le conflit méconnu, qui est paru aux éditions Bernard Giovannangeli. Dans nos archives d'émissions, vous pouvez y trouver d'autres podcasts consacrés à l'histoire des États-Unis, notamment des émissions avec Laurie Kenton, cette fois-ci sur la période récente des États-Unis. Et puis, puisque nous sommes en période électorale américaine et qu'il y aura au mois de novembre les élections présidentielles, eh bien, il est toujours intéressant de connaître l'histoire de ce pays qui est finalement assez méconnu, un peu à l'image de cette guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet ouvrage sur le site internet de Conflit. Et puis, je ne peux que vous recommander, vous inciter à vous abonner à Conflit depuis notre site internet. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de permettre que nous puissions continuer à faire ce type d'émission. Faites connaître également Conflit à votre entourage en diffusant nos articles et nos émissions. Et vous pouvez également retrouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, émission de géopolitique Fenêtre sur le monde. Merci pour votre fidélité et à bientôt.